C'est un balado de l'école secondaire Camille Lavoie. Les experts de la première secondaire.
Bonjour, mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Nous voici à ce balado exposé informatif du groupe 105 de Les Experts de la première secondaire. Je suis en compagnie de mademoiselle Léona. Léana, excuse-moi, je ne veux pas rater ton nom. Léana.
Mm-hmm.
Parfait. Nora.
Ouais.
J'ai pas mes feuilles. Rosie.
Oui.
Et monsieur Lucas.
Oui.
Bonjour, mesdemoiselles, messieurs et monsieur, pardon. Aujourd'hui, on a quatre beaux sujets et vous allez nous parler. On va commencer par Léana qui nous parle de
les pompiers.
Tu nous parles des pompiers.
Ouais.
Pourquoi tu nous parles des pompiers?
Ben parce que c'est un sujet intéressant puis. Ben, vu que je m'y connaissais déjà pas mal, ben, j'ai pas eu besoin de faire trop de recherches. Fait que c'était
Tu connais parce que...
Je sais pas.
Tu sais pas? OK. ça existe depuis quand, les pompiers?
Ben, en fait, un nom compliqué, là, en tout cas. Puis la première caserne a été inaugurée le 17 septembre 1882, lors du tout premier congrès national.
De quelle année, t'as dit...
De 1882.
1882. Avant ça, on éteignait les feux en soufflant dessus. Tu parles de pompiers avec tuyaux, puis les camions, puis tout le kit, là?
Oui.
OK. Pourquoi on dit sapeur-pompier?
Dans le fond, au Moyen-Âge, il n'y avait pas de réseau d'eau, puis il n'y avait pas de camion non plus, là, fait qu'il ne pouvait pas avoir de réserve d'eau. Quand il y avait un feu, il n'y avait pas d'autre choix que de saper les bâtiments, ce qui veut dire les démolir.
OK. Fait qu'il se promenait pas avec une chaudière, on débâtissait tout.
Puis, ouais.
OK. C'est assez radical. Fait que les pompiers, comme on les connaît aujourd'hui, c'est ça, c'est les gens qui arrosent, mais avant ça, c'était des démolisseurs.
Ouais.
OK. Intéressant. Puis, la chanson là, où sont passés les tuyaux, la grande échelle, là, ils se promènent avec une grande échelle. À quelle longueur, la grande échelle, là, tu sais-tu? Là?
Entre 24 ou 30 mètres. Fait que c'est à peu près la hauteur d'un immeuble de 6 ou 7 étages.
L'eau qu'ils utilisent pour éteindre les feux, ils prennent-tu l'eau de l'aqueduc puis ils remplissent le camion? Ou tu sais-tu d'où ça provient, cette eau-là? Vont-tu stinker dans la grande décharge?
Ben, dans un des camions, en fait, il y a une réserve d'eau, là, parce qu'il est fait pour ça. Puis, ben, ils vont prendre l'eau de là-dedans. Mais s'il y a une borne à incendie proche, ben, ils vont utiliser l'eau de la ville.
OK. Fait qu'ils ont un réservoir dans le camion, mais
ouais.
ils se branchent dans les bornes fontaines, là, quand il y en a une proche. OK. Les pompiers, ils font-tu juste éteindre des feux ou ils descendent des chats dans les arbres comme on voit dans les bandes dessinées? Là?
Ben, ils descendent pas vraiment des chats dans les arbres, là, mais ils font pas juste éteindre des feux. Ils peuvent aussi intervenir sur des inondations, des incendies, évidemment, des écroulements de bâtiments, plein de choses. Là.
OK. Fait qu'il y a comme des sauveteurs un peu. OK. Y a-tu quelqu'un dans ta famille qui est pompier? Non?
Personne?
Comment les pompiers ils font pour résister à la chaleur puis tout ça là, ils vont dans des grosses températures, ils ont-tu un équipement pour ça? Sont-ils entraînés?
Leurs vêtements sont faits dans un tissu qui est spécialement conçu pour résister à la chaleur du feu. Puis les semelles de leurs bottes sont tellement résistantes qu'ils peuvent marcher sur les flammes.
OK. C'est des semelles spéciales pour ça.
Ouais.
Puis tu sais, souvent, on voit des dalmatiens, puis on dit c'est le chien du pompier. C'est une vraie chose, ça? Y a-tu vraiment des chiens de pompiers?
Oui, il y a réellement des chiens de pompiers dans le fond, sont entraînés pour retrouver des personnes.
OK. Ils servent à retrouver les gens.
Ouais.
Tu sais-tu si c'est nécessairement des dalmatiens ou...
On pourrait croire que c'est des dalmatiens parce que, on voit ça dans les films, puis tout.
Mm-hmm.
Mais en fait, c'est les bergers allemands parce que ils ont un flair très développé, puis son grand puis fort.
C'est un métier que t'aimerais faire plus tard?
Ouais.
Ouais, t'aimerais ça?
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ça prend un entraînement pour être pompier?
Ouais, ben, dans le fond, quand tu veux devenir pompier ou pompière, ben, tu passes plusieurs examens, puis il y a des exercices d'entraînement.
OK. Ça ressemble à quoi? C'est du conditionnement physique?
Ben, ouais.
OK. Bravo, bel exposé. Sans plus tarder, on va enchaîner avec Nora. Nora, de quoi tu nous parles aujourd'hui?
Des champignons.
Les champignons? Oh, ça a l'air à te faire plaisir de parler de champignons.
Ouais.
Ouais. Pourquoi t'aimes ça, les champignons?
Parce que, il y a environ 3 ans, ma mère est allée dans un cours de mycologie, un cours de champignons. Puis, elle est revenue, puis ça m'a vraiment intéressée.
Excuse-moi 2 secondes, il y a des gens qui bougent les feuilles, on entend beaucoup les micros. Juste tournez vos feuilles, puis après ça... C'est beau. OK, vas-y.
Donc, dans le fond, ce que je disais, c'est que à un moment donné, il y a environ 3 ans, ma mère est allée à un cours de mycologie, un cours pour les champignons. Puis, quand elle est revenue, elle a rapporté plein de documents avec des choses comme ça. Puis, moi, j'ai décidé de les feuilleter. Puis, ça m'a vraiment intéressée. Je trouvais ça vraiment passionnant. Puis, depuis ce temps-là, moi et ma mère, on va un peu dans le bois, puis on essaie d'en trouver, puis on s'amuse vraiment.
OK. C'est une belle activité que tu fais vraiment. Avec ta mère, là. Dans quelle saison qu'il y a le plus de champignons?
C'est principalement l'automne, mais il y en a également pendant l'hiver, pendant l'été, puis pendant le printemps.
Ça fait 4 saisons.
Ouais. Donc, dans le fond, pendant l'hiver, il y a des chagas. Les chagas, c'est des espèces de grosses boules noires qui sont accrochées après les arbres. Ça ressemble un peu, en fait, à un petit nuage. Environ 5 cm, 15 cm.
Okay.
Ça dépend de la grosseur, puis ils vont être accrochés sur les arbres.
Ça goûte quoi, le chaga?
En fait, il y a des agriculteurs qui le cultivent. Sauf que je sais pas c'est quoi que ça a comme goût. J'ai jamais goûté.
Il y a une brûlerie locale ici, à Alma, là, le café Chaga Boréal.
Ouais.
Je pense qu'il en utilise.
Oui, je pense qu'il en utilise.
Ça a des bonnes propriétés, c'est ça? C'est,
ouais.
Ouais, OK.
Après ça, pendant l'été, il y a plusieurs autres sortes de champignons, comme aussi les morilles. Les morilles, ça, c'est des champignons qu'on retrouve souvent dans les épiceries. C'est des champignons qui poussent souvent dans des zones très humides, où est-ce qu'il y a eu des feux de forêt ou des choses comme ça.
OK. Fait que l'humidité et les feux de forêt, c'est quand même des bonnes conditions pour la génération. Fait que l'environnement qu'a besoin un champignon...
C'est souvent où est-ce qu'il y a de la mousse, où est-ce que c'est humide. Ça peut être aussi des fois où est-ce que c'est plus sec pour quelques champignons, comme une espèce qui s'appelle les polypores. Ça s'accroche sur les arbres, ça n'a pas de pied. Fait que ça a juste besoin de la sécheresse pour pouvoir se développer.
OK. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espèces de champignons.
Oui.
On en découvre encore aujourd'hui.
Oui.
C'est lequel ton champignon préféré?
Je pense que mon champignon préféré, c'est le champignon crabe. Son vrai nom scientifique, en fait, c'est le Dermatose d'Erysule. C'est un champignon qui ressemble un peu, en fait, à un coquillage. Puis sa couleur, c'est vraiment orangé. Moi, ma mère, bientôt, ça se pourrait qu'on aille même en ramasser dans les forêts, puisqu'elle a un ami qui en récolte. Puis c'est tellement facile à reconnaître que c'est rendu que quand on en voit un, on dit « Ah, ça, c'est un champignon crabe! » Puis bientôt, peut-être bien qu'on va pouvoir en récolter quelques-uns.
Puis tes amis parce que tu trouves ça beau ou ça goûte bon aussi?
Ça goûte bon aussi. C'est okay. Un peu amer, mais ça goûte bon.
Intéressant. Peux-tu nous... c'est quoi la sorte que tu connais le mieux? C'est-tu les champignons crabes?
Non, je pense que en fait, là, ça serait les cordyceps. Okay. Les cordyceps, là, c'est une sorte de champignon vraiment incroyable. Là, c'est pas comme les autres. En fait, ça se développe grâce à un insecte.
OK.
Dans le fond, là, premièrement, ça va trouver un insecte. Puis, ben, c'est comme, en fait, un parasite un peu. Fait que ça va s'emparer de l'insecte. Après quelques jours, il va être en mesure de prendre son corps, en fait, pour l'amener en hauteur. Ben, je donne un exemple, mettons, c'est une fourmi. Ben, elle va s'en aller dans une hauteur de la fourmilière. Puis elle va créer un champignon là parce qu'elle va réussir à le tuer pour faire un champignon, en fait. Puis
l'organisme va tuer la fourmi.
Ouais, l'organisme va tuer la fourmi, puis le champignon, il va continuer à se développer dans fourmilière. Puis là, plus tard, ça va finir par je sais pas comment le dire, là, mais ça l'extrait comme de la fumée, puis ça va aller partout dans la fourmilière pour créer des nouveaux champignons.
Okay, ben c'est des spores, genre? C'est les,
ouais.
OK. Dans le fond, les champignons, ils dégagent ces spores-là, puis c'est comme ça qu'ils se... Puis là, ils peuvent, admettons, arriver sur une autre fourmi qui s'en va ailleurs, peut-être, ou un autre organisme. Puis ça détruit la fourmilière, j'imagine?
Ça détruit toute la fourmilière, puis ça s'empare, ça devient tous des champignons.
Sais-tu pourquoi ils s'installent dans la fourmilière en particulier?
Parce que c'est là qu'ils vont pouvoir trouver le plus de fourmis, puis pouvoir s'en emparer. Okay. Parce que s'ils iraient à l'extérieur, il y aurait sûrement moins de fourmis.
Ouais.
C'est le meilleur endroit pour
ça dépend aller. Où tu viens. Ouais. S'il allait chez moi, d'après moi, il en trouverait pas mal. sais-tu comment c'est composé un champignon? De quoi c'est composé?
En fait, là, ça peut être composé de plusieurs choses quand même. Il peut avoir le chapeau, le pied, la volve, puis l'anneau. La volve, c'est à l'intérieur de la terre. Ça fait partie, en fait, du pied. C'est dans la terre, c'est ça qui va permettre au champignon de développer ses racines pour pouvoir se nourrir. Puis ça ressemble à une espèce de petit cône à l'envers.
OK.
Puis le pied, c'est dans ça. C'est ça qui va guider jusqu'au chapeau. Le chapeau, c'est ce qu'on voit toujours quand on regarde un champignon. Il peut avoir deux sortes de chapeaux. Les chapeaux lamellés et les tubes. Les lamellés, c'est comme des espèces de petits couteaux qui sont en dessous, mais ça coupe pas, bien sûr. C'est la chair du champignon. Puis c'est ça qu'on retrouve le plus souvent, je dirais, sur un champignon. Les tubes, c'est souvent sur les polypores, comme je vous ai dit tout à l'heure. Puis ça va à l'intérieur du champignon, puis ça peut même produire du lait. Du lait toxique, bien sûr, là. Mais ça goûte pas la même chose que du lait normal.
Non, tu mangerais pas tes céréales dans du lait de champignon.
Non. c'est vrai, il manquait l'anneau aussi.
L'anneau,
ça, c'est autour du pied. En fait, c'est un anneau, là.
Ouais. Sais-tu à quoi ça sert?
Ça sert pas vraiment à grand-chose, mais ça peut se distinguer des autres champignons pour pouvoir reconnaître la sorte.
OK. Parce qu'il y a beaucoup de champignons qui se ressemblent. C'est une science complexe.
C'est vrai
là.
Qu'il peut en avoir qui se ressemblent.
Puis il y en a qui sont vénéneux, il y en a qui le sont pas.
Oui, il y en a qui sont toxiques, il y en a qui sont moyennement toxiques, il y en a qui sont comestibles, puis il y en a qui peuvent être comestibles et pas.
OK.
Il y en a aussi,
qu'est-ce qui fait qu'ils sont comestibles ou pas? Tu dis qu'il y en a qui peuvent l'être ou pas?
En fait, ça fait partie d'eux.
C'est le même champignon qui peut des fois l'être, des fois pas? Ou
Non. Okay, c'est excuse. Vraiment la sorte de champignon qui est toxique ou pas.
OK. C'est quoi les étapes pour ramasser des champignons? Tu t'en vas dans la forêt comme ça, puis tu prends le premier du bord?
Non.
Sûrement pas.
Premièrement, je dirais qu'il faut commencer par faire quelques recherches ou prendre un cours de mycologie. Puis ils vont tout expliquer. Bien souvent, ils vont te faire faire même des randonnées pour pouvoir savoir comment les cueillir, s'il faut aller les chercher dans la terre, s'il faut le prendre par le chapeau, puis comment faire vraiment pour le ramasser. Après ça, souvent, il faut aussi bien étudier le champignon qu'on voudrait ramasser. Et pour finir, il faut avoir au moins l'avis d'un autre expert. Normalement, pour cueillir un champignon, il faut jamais être tout seul, parce que ça peut amener à d'autres choses, comme si tu penses que c'est ça, mais que ton ami il est pas sûr que c'est ça, tu sais, c'est pas une bonne idée de le ramasser, là. Parce qu'on a toujours un point de vue différent selon, là. Pas toujours, mais souvent.
Ça peut arriver, ouais. C'est important d'avoir un second opinion.
Ouais.
OK. Ça prend combien de temps un champignon à pousser?
Il peut avoir des champignons qui poussent du matin jusqu'au lendemain. Ça peut être quasiment à vue d'œil pour grandir. C'est vraiment impressionnant. Puis il y en a que ça peut prendre des semaines, puis des mois même. Il y en a qui sont vraiment longs à développer.
Puis dans le fond, je sais pas si tu le savais, là, l'organisme vivant le plus gros sur la planète Terre, c'est un champignon. Je sais pas si tu étais au courant.
Non,
là.
Je savais pas.
Ouais, je veux pas me lancer dans des spéculations, là, mais c'est vraiment un énorme champignon qui est souterrain. Là, que c'est du mycélium, je pense, quelque chose comme ça. Puis, dans le fond, il s'étend sur quasiment une centaine de mètres. Là. C'est vraiment immense. Là. C'est peut-être plus que ça, c'est peut-être des kilomètres. C'est vraiment un très, très gros okay. organisme.
Ouais, c'est quand je vais me renseigner là-dessus, ouais. ça a l'air vraiment haut.
Ouais, c'est cool. Bon, ben merci. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions sur les champignons? Oui?
Ben, en fait, j'ai deux questions. Premièrement, à quoi ça ressemble un champignon crabe?
Un champignon crabe, ben, c'est comme je disais tantôt, ça peut ressembler à un coquillage, ça peut ressembler à beaucoup de choses. Là. Ça peut avoir plusieurs formes.
Okay. Puis, mettons, les champignons, tu sais, des fois, t'en as dans ton jardin. Ben, pas dans ton jardin, mais dans ta cour arrière. Là, ouais. Ça, tu peux-tu les cueillir sans risque?
Ben, pas nécessairement. Il y en a qui peuvent être vraiment vénéneux, puis qui peuvent être dans notre cour. La dernière fois, j'en ai trouvé un proche du cimetière à l'école, puis c'était un toxique. Oh. Fait que ça peut être dangereux. Alexis? Ben, soit on va les mettre dans des sacs ou on va les faire sécher sur une table avec un carton en dessous ou quelque chose comme ça.
Ouais, il y a un procédé spécial là, pour identifier les champignons. Là. Tu disais qu'il faut prendre son temps et ça prend l'avis d'un expert, mais je sais qu'il y a une histoire de comme le tremper dans l'eau puis regarder les spores.
Oui, ben, en fait, bien souvent, il faut le faire sécher premièrement. Après ça, il faut le laver. Il faut regarder comme il faut pour pouvoir savoir si en dessous du chapeau, il y a des saletés.
Parle dans le micro un peu.
Fait que, il y a beaucoup d'étapes quand même pour pouvoir le manger à la fin.
Fait que c'est ça, tu peux pas vraiment manger lui.
Ça fait quoi si tu prends un champignon qu'il faut pas prendre?
Ben, si tu le prends, ça dépend parce que ça peut ne pas être grave, même s'il est toxique, parce que tu peux te laver les mains puis ça sera pas grave, mais ça peut aussi faire des réactions allergiques comme des boutons puis plein de choses comme ça. Ça peut... Mais je pense pas, par exemple, que ça peut... Si tu le prends, que ça peut faire vraiment une réaction grosse qui est toxique.
Ouais, ben merci, Nora. Super belle exposée. On poursuit avec Mademoiselle Rosie. Rosie, tu vas nous parler de?
Des chats.
Les minous.
Des chats, ouais.
Pourquoi tu as choisi les chats?
Ben, en fait, j'ai choisi les chats, parce que moi et ma famille, l'an passé, ben, on a adopté un sacré de Birmanie, puis il s'appelle Bambou. Puis j'ai commencé à me poser des questions sur son comportement, là. Fait que, ben, j'ai fait des recherches, puis ben, j'ai trouvé des infos sur c'est plus ses sens comparés aux humains.
OK. OK. C'est un sacré de Birmanie?
Oui, un sacré de Birmanie.
Ça a l'air de quoi, ça?
Ben, en fait, c'est à peu près comme... les sacrés de Birmanie sont blancs du corps, avec une petite face grise, souvent des yeux bleus, puis une queue grise avec le bout des pattes grises, puis le reste, c'est tout blanc.
OK. C'est un poil long?
Ouais.
Ouais? OK. C'est un chat de race pure que vous avez acheté?
Oui. Okay. J'ai un éleveur.
Puis, tu parlais des sens des chats. Les chats, ils n'ont pas les mêmes sens que nous. Ils voient différemment.
Oui, effectivement.
Ben, si on parle souvent de la vision nocturne. Oui,
ouais, c'est ça. Contrairement à ce qu'on pense, les chats, là, ils ne voient pas si bien que ça, en fait. Dans le fond, ils voient juste de deux couleurs. Ils voient seulement le jaune puis le bleu avec leur dégradé. Dans le fond, si vous voulez, vous pouvez vous imaginer, mettons, une image. Je vais essayer de vous la décrire du mieux que je peux, mettons. C'est une journée ensoleillée avec de la pelouse, un ciel bleu, puis une petite maison avec un toit rouge. Ben, dans le fond, le chat, tout ce qu'il va voir, ça va être le ciel qui est bleu. Puis le reste, il va le voir d'un jaune brunâtre. Puis il va même voir brouillé. Puis aussi, le chat, il voit de net de quelques centimètres à quelques mètres. Fait qu'il n'a vraiment pas une très bonne vision. Par contre, sa vision nocturne, ben, il voit extrêmement bien. Par exemple, nous, du point de vue d'un humain, si on regarde une ville le soir, mettons, puis tu vois juste quelques points de lumière, ben, le chat, lui, il va comme tout voir en gris cette fois-ci. Puis il va voir tous les moindres détails, genre les bosses dans une bande, puis tout.
OK. Mais tu sais-tu pourquoi il voit mieux la nuit?
Non, ça, je le sais pas. Ils voient juste mieux la nuit.
Sais-tu parce que les spectres de lumière, le jour, la nuit?
Ben, honnêtement, je le sais pas.
OK. C'est des bons chasseurs, on s'entend, les chats,
ouais.
Souvent. Ils doivent se relayer sur d'autres sens que la vue.
Ouais.
C'est avec l'odorat, Louis? La...
Ouais, ben ça, je vais en parler juste un peu tantôt, pourquoi ils sont aussi bons chasseurs.
OK. Veux-tu nous parler des autres sens, Louis?
Ben, dans le fond, il y a son ouïe. Mm-hmm. Fait que dans le fond, le chat, il entend 100 fois mieux que l'humain.
OK.
Puis il peut entendre des sifflements, là, des bruits vraiment pas forts, jusqu'à 20 mètres. Aussi, si, mettons, il veut chasser une proie, là, ça c'est une des raisons pourquoi il est un bon chasseur. S'il veut chasser une proie, ben, dans le fond, il peut juste, si je prends l'exemple sur une souris, il peut juste se concentrer sur la souris. Fait qu'il va entendre juste ses couinements à la souris, puis le reste des autres bruits, il les entendra pas. Il peut se concentrer sur une chose, puis le reste, il entendra plus rien.
OK, comme un appareil photo qui fait un flou,
ouais.
Qui focus juste sur...
Ouais, c'est ça.
Avec ses oreilles. Côté odorat...
Le chat, il sent de 50 à 70 fois mieux que les humains. Puis aussi, plus le chat a un nez plat, moins il va bien sentir les odeurs.
OK, avec les persans, les chats là, qui ont le nez bumpé dans...
Ouais. Aussi, plus le nez d'un chat il s'humidifie, qu'il se mouille, ben ça veut dire qu'il a faim ou qu'il a soif. C'est comme une façon de nous communiquer.
Là, avec toutes ces caractéristiques-là, est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est un grand chasseur?
Ben, ça sera certainement pas grâce à sa vision, vu qu'il voit pas très bien, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Ça va être plus grâce à son ouïe, là, qui est extraordinaire, puis son odorat un peu, vu qu'il sent extrêmement bien. Puis aussi, pour terminer, aussi une petite anecdote, un chat qui va être aveugle, il va jamais être désorienté, parce qu'avec ses oreilles, ben, mettons qu'on fait un bruit, il va savoir d'où il vient exactement, fait qu'il va jamais être désorienté.
Ouais, ça peut avoir l'air... Ouais, ça peut avoir l'air bizarre. Par exemple, là, le chat de mon ami, il est aveugle, puis à tout bout de champ, il fait juste regarder un mur, tu sais, puis...
Ah! Ben, c'est peut-être un cas particulier.
Ouais, c'est un cas particulier. Mais il est alerte pareil, là, tu sais, il vient nous voir quand on est là, tout ça, mais c'est juste que dans ses temps libres, il regarde les murs.
C'est intéressant.
Tantôt, tu parlais de communiquer avec nous. Tu dis, tu connais-tu d'autres moyens que les chats ont de communiquer avec nous?
Ben, en fait, dans le fond, le langage d'un chat, quand il miaule, là, quand mm-hmm. il nous regarde puis il miaule, ça, c'est un langage qu'il réserve juste pour l'humain.
Mm-hmm.
Dans le fond, mettons deux chats sauvages, là, ils se parleront pas en miaulant.
Fait qu'ils ont développé le miaulement pour parler avec nous.
Ouais, avec les humains.
C'est impressionnant. Les ronronnements, tu sais-tu si c'est la même chose?
Hein? Ben, les... non, mais moi, des fois, mon chat, il ronronne, ça veut dire qu'il est content, là.
Mais tu sais, ils ronronnent entre eux?
Je pense pas, non. Mais je suis pas sûre s'ils ronronnent entre eux. Pardon?
On termine avec notre petit chasseur, M. Lucas.
Ouais.
Bonjour, Lucas.
Bonjour.
Bonjour. C'est quoi la chasse que tu vas nous parler? La chasse galerie, la chasse d'eau?
C'est la chasse que tu tues les animaux, pas des histoires, des contes.
Non, OK.
Mais la chasse, en fait, c'est... un moyen de maintenir la population d'animaux dans certains territoires parce que sinon, il y en aurait vraiment trop. Puis aussi, c'est un moyen de survie avec la viande que tu récoltes avec ton animal.
OK. Fait que c'est vraiment fait dans le respect des normes.
Ouais.
OK. Cool. Pourquoi toi, tu chasses?
Ben parce que moi, j'aime ça, le tir de précision, m'entraîner au tir... toutes les sensations qu'on ressent, puis aussi la préparation. Puis en parlant de la préparation, ben c'est quand on construit la cache, là, la cabane que,
mm-hmm.
que tu vas tuer ton animal, mettre le bloc de sel, il faut que tu le mettes au bon emplacement, puis aussi couper le bois autour pour que tu ailles une bonne visée pour abattre ton animal.
Une bonne distance, ouais. Là, où tu peux voir. Puis, fait que j'imagine que tu chasses pas tout seul.
Non, je suis pas assez vieux. Me semble que c'est 16 ans pour chasser tout seul.
OK. Mais t'as ton permis de port d'arme?
Non, je l'ai pas, mais j'ai juste mon permis d'arbalète.
OK. Ouais. Tu chasses à l'arbalète?
Oui.
T'as-tu déjà tué à l'arbalète?
Oui. J'ai tué juste un animal. C'était le chevreuil. Ouais, une petite femelle.
OK. T'as commencé jeune?
Oui, j'ai commencé à 7 ans. Je suivais mes parents puis mes grands-parents, mais c'était pas moi qui tuais l'animal. Moi, je les pistais, puis je regardais où ce qui était, puis je les aidais.
Quand, souvent, on parle de grosses chasses, de petites chasses. Tu peux-tu nous dire c'est quoi la différence?
La petite chasse, c'est plus les perdrix, les petits gibiers. Mais la grosse chasse, c'est comme l'orignal, que t'as vraiment besoin d'une préparation
plus méthodique, là.
Ouais.
Comme les salines, mettons. Là,
ouais, c'est ça.
OK. T'as-tu déjà fait un voyage de chasse, genre dans une pourvoirie?
Oui. Je suis allée dans les cantons de l'Est avec mon père, en Estrie, à Sainte-Catherine-de-Hatley. Il y avait des guides pour nous amener à des emplacements, les meilleurs emplacements pour que je tue mon premier animal qui est le chevreuil.
Okay.
Je l'ai tué là-bas. Puis, c'était vraiment le fun là-bas.
Ça fait-tu longtemps que tu...
C'était le 11 octobre cette année.
OK. OK. Fait que c'est récent. Là.
Ouais, à l'Action de grâce.
Oh!
Ouais.
Drôle là-dedans. Fait que c'est là que tu as fait ton voyage de chasse, c'est cette année.
Oui.
Tu disais que tu fais ça en famille. C'est dans ta famille, vous êtes une famille de chasseurs?
Oui, c'est plus avec mon grand-père, puis ma grand-mère, puis aussi mon frère, puis mes parents que je chasse, parce que mes autres membres de ma famille, ils sont moins dans la chasse.
OK, ouais. OK. Puis, genre, vous avez-tu un chalet familial ou quelque chose comme ça? Là?
Oui, on a un chalet, mais c'est pas à nous, c'est aux grands-parents, mais toute la famille y va. Là.
OK, c'est un chalet familial.
Oui.
OK. Puis, vous y allez souvent chaque année chasser?
Quand c'est le temps de la chasse, on y va à chaque fin de semaine.
OK.
Puis l'été, on y va au moins aux 2 semaines.
Oui. C'est quels animaux que vous pouvez voir que vous pouvez chasser dans votre coin?
Les orignaux puis la perdrix.
Tes parents, est-ce qu'ils chassent à l'arbalète aussi?
Mon père puis mon frère, mais pas ma mère.
OK. Ta mère, elle chasse au fusil ou elle chasse pas?
Oui, elle chasse au fusil. Ah, okay. Aussi mes grands-parents aussi.
OK. Ils
chassent l'ours.
Ils chassent l'ours?
Oui.
À l'arbalète?
Ouais.
Puis, ont-tu déjà tué un ours à l'arbalète?
Oui.
T'as-tu déjà mangé de l'ours?
Oui, mais c'est vraiment pas tendre.
C'est pas tendre?
Ça goûte pas grand-chose, mais ça va bien dans les burgers.
Dans les burgers?
Ouais.
Tu manges des burgers d'ours?
Ouais.
OK. Y a-tu d'autres animaux que tu chasses, à part la perdrix, l'ours, le chevreuil?
Moi, je chasse le chevreuil, mais moi, j'ai juste le permis d'arbalète.
Mm-hmm.
Puis il nous faut 12 ans pour avoir les permis port d'armes puis tout ça. Mais moi, j'ai pas encore mon port d'armes. J'aimerais ça l'avoir plus tard pour chasser la perdrix puis les orignaux.
OK. Là, t'as quel âge, t'as 11 ans?
Là, j'ai 12 ans.
T'as 12 ans. Puis c'est quel moment de l'année où qu'on chasse? C'est à l'automne?
C'est plus au Québec. En tout cas, c'est plus à l'automne. Puis aussi, ça dépend t'es dans quelle zone puis quel animal tu chasses.
Veux-tu nous donner 2-3 exemples d'animaux puis de saison?
Les orignaux, on chasse les orignaux. Puis c'était fini la chasse aux orignaux. Puis moi, j'étais allée en Estrie avec mon père. Puis j'ai tué mon chevreuil. Mais c'était pas comme le chevreuil, c'est plus longtemps.
Ok, ok. Mais c'est à peu près les mêmes dates là quand tu changes de région.
Ouais.
S'il y avait un animal là, que tu tu veux chasser, là, l'animal ultime à abattre là, avec les cornes en or, puis ce serait quoi?
Moi, ça serait un wapiti, un mâle avec des gros bois.
Avec des gros bois.
Ouais.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions pour notre expert en chasse? Oui?
Vous autres, vous avez fait juste attendre que l'animal s'en vient ou vous l'appelez?
Ben, des fois, on call, on fait des bruits pour attirer l'animal, mais on reste dans notre cache souvent, mais on peut aller se promener dans le bois.
Tu peux-tu nous imiter le bruit de l'orignal?
Non, moi, je suis pas capable. C'est juste mon père et ma mère.
Et merci de votre écoute. C'était les experts de la première secondaire du groupe 104.
105.
105, pardon. bonne fin de journée.